Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Guillaume Tirard, sous-préfet de Die. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer le programme, le plan loup, ce qu'on a appelé le plan loup. Et ici, dans notre secteur, où un certain nombre d'agriculteurs et d'éleveurs sont particulièrement touchés. Je pense que les Diois ont bien senti, vu et entendu ce qui s'est passé, les différentes manifestations qu'il y a eu ces derniers temps, et puis la colère des éleveurs. Et effectivement, beaucoup d'élus du secteur s'étaient aussi un petit peu emparés, notamment dans le Haut-Diois, de cette problématique du loup. Alors peut-être qu'on peut rappeler un petit peu aux auditeurs qui, je ne sais pas, débarqueraient dans le secteur, que le loup a fait son grand retour dans les Alpes et puis par chez nous, et que les attaques se sont multipliées de plus en plus bas dans la vallée jusqu'à nos portes, voilà, et que l'inquiétude grandit beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a un plan loup qui a été mis en place, et d'où votre présence aujourd'hui pour nous parler un petit peu de cela. Est-ce que je vous laisse présenter ce plan loup, ou vous présenter peut-être vous-même un petit peu?
Eh bien, je suis le sous-préfet de l'arrondissement de Die, donc en fonction depuis août dernier dans ce magnifique arrondissement, où j'ai tout de suite pris la mesure de l'importance de ce sujet pour le monde agricole et pour les habitants de l'arrondissement en général, et plus particulièrement, vous l'avez dit, de ceux du Haut-Diois, même si le loup est une espèce qui a fait sa réapparition en France donc en 1992 dans le Mercantour, où quelques individus venant d'Italie ont franchi la frontière, et qui connaît une expansion démographique et géographique depuis, puisqu'on estime la population globale en France à environ 250 individus, ce chiffre qui est le résultat des méthodes de comptage basées sur différents facteurs d'observation de présence en particulier.
Donc une croissance assez rapide finalement quand même.
Une croissance assez rapide, bon, c'est un animal qui reconquiert des territoires qu'il a longtemps occupés, qui est un grand prédateur, donc qui par définition n'a pas de prédateur, il est au sommet de la chaîne alimentaire, qui sait s'adapter au milieu, qui lorsque un territoire occupé par une meute ne suffit plus à nourrir donc les individus qui la composent, est dans une stratégie d'expansion territoriale qui fait qu'aujourd'hui, le loup a non seulement recolonisé une grande partie de l'arc alpin, mais maintenant, on le retrouve dans le Jura, dans les Vosges, dans les Pyrénées-Orientales, et en Ardèche depuis l'an dernier, et dans certains points du Massif central. Donc le loup ne concerne plus uniquement l'arc alpin.
On peut préciser que c'est une espèce protégée aussi, et c'est ce qui fait toute la difficulté de l'approche aujourd'hui de sa cohabitation avec l'homme.
Hein. Voilà, tout à fait. C'est une espèce donc, qui est strictement protégée, hein, qui la France est partie à des conventions internationales, dont la convention de Berne sur la protection des espèces sauvages. Il est protégé aussi par la directive Habitat, donc une directive européenne, donc qui fait de cet animal un animal protégé. Pour autant, ces textes permettent aussi, en cas de difficultés liées à sa présence et aux effets qu'il peut causer, en particulier sur les troupeaux, permet de mettre en œuvre, donc ça c'est dans le cadre de la réglementation nationale, des mesures de régulation.
Voilà, donc ce seraient des prélèvements qui sont faits par des gardiens de secteur, enfin...
Alors on peut parler de ce qui existe déjà, donc... La réglementation permet effectivement la mise en œuvre de tirs de défense, de tirs de prélèvement, donc il y a déjà une certaine graduation, en cas de dommages avérés sur un troupeau. Et l'objet de ce nouveau plan loup, puisqu'on va, on va y venir, est donc aussi de mettre l'accent vraiment sur une protection des troupeaux plus qui est mis vraiment au cœur de ce plan qui est primordial tout en assurant naturellement le respect des impératifs de protection de cet animal qui reste une espèce protégée.
Est-ce qu'on peut parler de cet aspect, la tire de défense n'est-ce pas justement ce que demandaient les éleveurs et qui semblait ne pas être tout à fait autorisé en fait ?
Alors, il y a peut-être des insatisfactions qui ont été exprimées, mais enfin le dispositif existe déjà. Il y a déjà des tirs de défense qui ont été accordés encore cette année dans le DIWA, des tirs de prélèvement qui ont été ordonnés dans le passé, qui ont été positifs ou pas dans le sens où il y a eu ou non des prélèvements, mais donc c'est un dispositif qui existe déjà.
Donc un tiers de défense, c'est quoi ? C'est l'éleveur lui-même
qui peut défendre son troupeau, comme son nom l'indique, hein, et qui peut, le cas échéant, se faire aider d'autres personnes qualifiées, telles que l'Office national de la chasse ou les louvetiers.
Donc maintenant, on va aborder donc ce plan loup, c'est-à-dire que là, quand même, les pouvoirs publics ont dû sérieusement s'emparer de cette problématique, puisque là, on est quand même dans cette phase où l'homme n'a pas vraiment envie de cohabiter avec le loup. Vous parliez que c'était un grand prédateur au sommet de la chaîne, mais enfin, on est presque à côté, enfin, ou tout juste à côté, ou voire au-dessus. Donc on peut décider s'il reste un grand prédateur au sommet de sa chaîne.
Alors, il reste au sommet de la chaîne et il s'inscrit, donc son existence s'inscrit dans un cadre juridique qui est donné, qui nous appartient de mettre en œuvre et de respecter. Et donc ce nouveau plan loup, d'une part, est à la suite d'un précédent plan loup, hein, qui comportait déjà un certain nombre d'avancées, et c'est sans doute la leçon de l'expérience. La volonté était clairement exprimée lors de la présentation du plan le 5 février dernier de faire de la protection des troupeaux un aspect primordial de ce plan. Donc ça passe par des mesures de protection, enfin des mesures de défense ou de protection qui sont graduées. Désormais, un éleveur qui est dans une zone de présence permanente du loup, dont le troupeau est protégé, puisque vous savez qu'il y a un arsenal de mesures de protection qui donnent lieu d'ailleurs à des indemnisations par l'État.
Ce qu'on appelle ces seuils de protection, c'est par exemple la présence de chiens.
Voilà, le chien de protection du troupeau, un gardiennage renforcé, les parcs, voilà, des mesures qui peuvent donner lieu donc à indemnisation, ce qui est tout à fait légitime. Donc un éleveur qui est dans une zone de présence permanente du loup, qui met en œuvre une mesure de protection, pourra de manière systématique bénéficier d'un tir de défense, donc avec une arme lisse, donc le fusil de chasse classique, hein, de nos grands-pères, hein, qui lui permettra donc, s'il était attaqué, de pouvoir défendre son troupeau.
Moyennant permis, bien sûr.
Si ça s'avérait insuffisant, on pourrait aller vers un second palier qui est le tir de défense avec une arme à canon rayé, donc la carabine de chasse qui sert pour la chasse aux sangliers, par exemple, donc qui est une arme plus précise qui peut permettre d'être plus efficace dans le tir. En cas de dégâts qui seraient toujours présents sur les troupeaux, on peut passer à des tirs de défense renforcés. Donc là, l'éleveur a le concours de personnes qualifiées, type fonctionnaire de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, lieutenant d'ouverterie ou autre.
Et pour être associé, par exemple, aux associations locales de chasse aussi ou...
Le cas échéant, c'est une... Et enfin, donc, si tous ces différents paliers n'étaient pas suffisants, on pourrait passer à des tirs de prélèvement donc, qu'on connaît classiquement et qui sont mis en œuvre par l'État.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même l'historique de la pastoralité en France ? Je ne sais pas si ça se dit. Enfin,
du pastoralisme.
Du pastoralisme, voilà, merci. C'est quand même passé à un moment donné par l'éradication totale du loup, par des grandes battues qui ont pris des années et des années de notre histoire. Pour le pour rendre aujourd'hui nos paysages tels qu'ils sont et libres de ce prédateur. Est-ce qu'on n'est pas tout doucement en train quand même de revenir vers ça?
Alors, on n'oublie pas l'histoire, et vous avez raison de le souligner, la cohabitation du loup et de l'homme a été particulièrement problématique hein, dans les siècles passés. Il y a des travaux remarquables d'historiens qui sont à ce sujet très, très intéressants et qui comptent d'ailleurs concerner tout le territoire national, la plaine comme la montagne. Le plan actuel vise bien à préserver le loup et à ne pas contrarier son expansion démographique. Mais il vise aussi à vraiment intégrer la défense du pastoralisme dans la politique globale de gestion de cette espèce. Ça passe notamment par une meilleure évaluation aussi du niveau des populations et la définition d'un plafond de prélèvement plus important en fonction justement de son expansion démographique pour permettre donc d'apporter une meilleure réponse aux éleveurs qui seraient attaqués. Donc il y a vraiment effectivement un équilibre à trouver, mais il y a cet impératif de protection qui est prévu par les textes internationaux auxquels la France ne peut se soustraire. Enfin, le Conseil fédéral suisse a essayé de revenir sur le statut du loup par rapport donc à la Convention de Berne et pour l'instant n'a pas réussi. Donc ça, c'est un cadre juridique qui s'impose. Pour autant, ce même cadre juridique permet aussi d'intervenir sur le loup, hein, donc ça s'est traduit dans la réglementation nationale, et permet donc, et l'objectif du gouvernement, à la suite des travaux du groupe national loup, c'est bien d'avoir une réponse adaptée, à la fois sur un plan qualitatif, s'agissant des mesures de suivi, des mesures d'évaluation, mais aussi sur un plan strictement quantitatif en termes de prélèvement, et donc d'avoir un plafond de prélèvement plus important compte tenu de l'évolution de la situation, de l'évolution démographique de la population de loups.
Alors concrètement, l'État fait quoi ? Met plus de moyens, développe plus de gardes, enfin, comment c'est ?
Alors la réponse, ce sera justement d'avoir des plafonds de prélèvement plus importants, donc qui pourront être mis en œuvre aussi par les fonctionnaires de l'État, mais aussi par les éleveurs dans le cadre du tiers de défense, par les lieutenants de louveterie, par les chasseurs.
Voilà, donc on va mettre plus de personnel, plus...
Oui, mais sans que ça se traduise forcément par des moyens budgétaires plus importants. Enfin, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui réponde mieux aux impératifs qui peuvent être contradictoires, mais qui ne le sont pas en l'espèce, à la fois conservation de l'espèce, mais aussi défense et soutien aux éleveurs concernés.
Alors cette notion de défense, c'est principalement ce que demandaient constamment les éleveurs du secteur, effectivement, de pouvoir tirer eux-mêmes, pouvoir se défendre. Et quand on sait que le loup est quand même un animal relativement intelligent, qu'il attaque la nuit et qu'il attaque de manière assez rapide et tactique, est-ce que c'est pas simplement leur donner aux éleveurs une sorte d'espoir ? Bon ben voilà, vous avez demandé ça, on vous donne ça, mais est-ce que ça va réellement régler le problème ?
Régler le problème, est-ce que ça va faire cesser toutes les attaques ? Certainement pas, je ne tiendrai pas ce discours. Mais la première chose aussi, c'est de pouvoir se dire qu'un éleveur qui est confronté à ce problème et qui aura, à qui la puissance publique lui donnera le droit de pouvoir défendre son troupeau en toute légalité, c'est déjà un premier point. Il sera légitime, on parle de légitime défense parfois, voilà, là ça sera une défense légitime de son troupeau, il le fera en toute légalité, donc ça c'est un premier point. Après, l'adaptation du plafond de prélèvement est aussi une réponse, c'est aussi éviter que l'expansion géographique et démographique du loup ne soit trop pénalisante, donc en augmentant le plafond, on répond aussi à cet impératif, et toujours dans l'esprit d'une cohabitation entre cette espèce et l'homme et les activités qu'il mène dans nos montagnes, par exemple.
C'est-à-dire que nous sommes en train d'évaluer un espèce de seuil où on se dirait, bon, bah voilà, là, on est, vous parliez de 250 espèces, 250 individus au départ, bon, on va se dire, en dessous d'une centaine, c'est à peu près gérable.
Il n'y a pas de volonté de dire on est à 250, on va descendre à 150 ou on va monter à 300. C'est la nature qui le commandera. Mais le plafond de prélèvement sera défini en fonction de l'évolution démographique du loup. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas, on n'entend pas éradiquer ou diminuer la population de loups. Mais en fonction de sa croissance démographique, on pourra déterminer un plafond de prélèvement qui sera plus adapté.
Est-ce que cette question est posée dans le gouvernement ou peut-être par vous, la question de la présence réelle du loup, c'est-à-dire que est-ce que quand même on peut cohabiter avec cette espèce ? Pour certains éleveurs, c'est absolument pas concevable.
Oui, ça, j'entends bien. Les éleveurs, j'en ai rencontré plusieurs, et les élus, et parfois des élus qui sont eux-mêmes éleveurs. Et je me suis efforcé. D'aller à leur rencontre, y compris sur le terrain, et j'ai parfois été interpellé, et c'est bien normal et bien légitime quand on est confronté à ces situations. La cohabitation, elle est difficile, et vraiment l'enjeu, et ça c'est aussi la ligne que monsieur le préfet a déterminée, c'est d'utiliser toutes les ressources qu'offre la loi en matière de protection des troupeaux. Donc, il s'agisse des mesures de protection dont on parlait, les chiens de troupeau, les parcs, le gardiennage, et aussi, quand c'est nécessaire, les outils de régulation que nous offre la loi, le règlement.
Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de jouer un peu avec le feu, d'attendre la prochaine attaque sur enfant qui sera là en train de garder le troupeau comme à l'époque ? Non, mais je provoque un petit peu là-dedans parce que effectivement, c'est quand même la vraie question de base. On peut pas se dire que le loup va attendre tranquillement de se faire tirer dessus, d'éviter de manger les troupeaux. On espère qu'il passe à autre chose, mais enfin, s'il a choisi de manger ses brebis, c'est parce que c'est plus facile que de manger du sanglier.
Oui, mais bon, les études montrent quand même que son régime alimentaire, il est quand même principalement
sauvage.
Sauvage. C'est le gibier. D'ailleurs, même le gibier, apparemment, les populations, quand le loup est arrivé, ont subi une forte prédation et semblent retrouver, pour certaines en tout cas, des niveaux de population comparables à ceux connus au moment de l'arrivée du loup. Là, c'est une des observations qui m'ont été rapportées sur le Vercors en matière de chevreuil en particulier. Alors, oui, vous l'avez dit, l'histoire est pleine d'accidents dramatiques avec des personnes. Alors, le loup s'attaque au gibier et quand il le peut, et c'est sans doute plus facile, au troupeau. Il ne s'agit pas de créer de la psychose, mais il faut rester prudent, c'est possible, oui.
Bon, alors on va faire confiance à nos éleveurs pour prélever correctement. Est-ce que, revenons un peu sur ce plan loup, y a-t-il des...
Ce plan définit un certain nombre de priorités, donc que j'ai déjà évoqué. Donc une première priorité, donc avoir un suivi... biologique plus réactif, donc c'est le suivi de la population, donc qu'on cherchera à conforter, à étendre au travers de correspondants de terrain qui seront formés pour cela. Une mise à jour des estimations d'effectifs plus réactives, ça passera notamment par une réorganisation des analyses génétiques qui permettront d'avoir ce suivi plus réactif. Une seconde priorité que j'évoquais et qui est très importante, donc c'est que la protection des troupeaux contre la prédation reste primordiale. C'est un aspect primordial du plan. Donc ça passera par des mesures de protection simplifiées et éventuellement l'expérimentation de nouvelles méthodes. Un point important pour les éleveurs, c'est qu'il y aura une réflexion qui va être conduite s'agissant de la responsabilité juridique en matière de détention des chiens de troupeau. Vous savez que la question des patous est parfois problématique, en particulier en période estivale, quand ils
gardent les troupeaux,
pour les randonneurs. Voilà, donc il y a y a un sujet, même si beaucoup a été fait en matière d'information, de prévention en direction des touristes qui parcourent nos montagnes. Mais il y a un travail qui va être conduit sur la manière de réduire les risques juridiques qui peuvent peser sur les éleveurs en matière de détention de chiens de troupeau. Et de la même manière, on s'efforcera aussi de développer une sélection d'animaux peut-être plus aptes à remplir à la fois leur mission de garde du troupeau et aussi peut-être éventuellement moins agressifs en direction des hommes.
C'est-à-dire concrètement, là, il y a des études scientifiques voilà, qui sont en train de se faire.
Enfin, les études scientifiques, vous savez, c'est de la sélection classique en matière d'animaux de ce type, de chiens, quoi. Donc, c'est de choisir, de veiller à ce que on ait des lignées de chiens qui soient
moins agressives avec l'homme,
peut-être moins agressives avec l'homme, tout en conservant leur qualité de défense du troupeau.
D'accord.
Voilà. Peut-être qu'il y a eu, comme il y a eu un besoin aussi, à un certain moment, une surproduction de ces chiens, où on a peut-être été moins vigilant sur leur qualité, tout simplement. Hein.
Donc on parle du patou, hein, le gros chien.
Voilà, le patou, voilà. Troisième priorité, donc un dispositif d'indemnisation des dommages encore affiné, avec donc dans le cadre de ce plan loup, un effort qui sera porté sur les pertes indirectes. Dans la mesure où, bon, quand un troupeau est attaqué, alors certes, il y a les pertes directes, donc les animaux qui sont tués ou blessés, mais il peut y avoir d'autres pertes comme
l'affolement du
troupeau, et donc ça peut avoir un impact sur la reproduction, des avortements. J'en parlais il y a quelques temps avec un éleveur là, qui a subi des attaques et qui me disait qu'il avait un peu moins d'agnelage cet hiver, qui faisait peut-être un lien avec les attaques qu'il a subies.
Des bêtes stressées.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Voilà, sur la quatrième priorité, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc un nouveau protocole d'intervention proportionné aux enjeux. Donc il s'agit bien, on est toujours dans une dérogation par rapport au principe général de protection de l'espèce, mais sous réserve d'un maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, d'un intérêt à agir, donc c'est-à-dire que il s'agit de, en prélevant un animal ou en tout cas en mettant en œuvre des mesures visant à le prélever, c'est de prévenir donc des dommages importants au troupeau et en veillant quand c'est possible à mettre en œuvre des solutions alternatives, donc un protocole gradué donc avec tir de défense pour les éleveurs en zone de protection permanente du loup, qui mettent en œuvre des mesures de protection, donc avec une manière systématique la délivrance d'une autorisation donc de tir de défense avec une arme à canon lisse. Second palier, tir de défense avec une arme à canon rayé. Troisième palier, donc les tirs de défense renforcés, donc l'éleveur s'adjoint le concours de personnes qualifiées. Et enfin, si ces solutions s'avéraient inefficaces, le tir de prélèvement. Voilà. En termes de calendrier pour ce plan loup, donc l'annonce a été faite le 5 février, donc par Madame Delphine Bateau, ministre de l'écologie, et Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, puisque c'est un sujet partagé entre ces deux ministères. Donc pendant le mois de mars, donc ce plan, le projet de plan, puisqu'il s'agit bien d'un projet pour le moment, est ouvert à la consultation du public. En avril, il fera l'objet d'un examen par la commission faune du Conseil national de protection de la nature. Et l'entrée en vigueur de ce plan est prévue donc à l'issue de cette consultation, donc au printemps.
Cette consultation publique a quoi comme but ?
C'est de faire remonter aussi, chacun peut faire remonter ses observations. Bon, sachant, et ça c'est important à souligner, le projet de plan loup 2013-2017 est le fruit du travail donc du groupe national loup qui s'est réuni à de multiples reprises, groupe qui comprend tous les acteurs intéressés, donc aussi bien les différentes administrations que les associations de protection de la nature, les chasseurs et premier concerné naturellement les agriculteurs. Donc il t'a souligné que le groupe national loup comprenait en son sein le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Drôme, donc M. Royanet, qui a été un membre actif au sein de ce groupe.
Juste une petite question annexe, comment cohabitent justement les associations, les différentes personnes qui décident de protéger la nature un peu envers et contre des
Écoutez,
éleveurs qui, eux, semblent le faire aussi, parce qu'ils la protègent d'une manière.
oui, mais je n'ai pas participé aux travaux de ce groupe national loup, mais
Est-ce que localement?
Il y a eu un dialogue. Alors localement, je ne sais pas s'il y a un dialogue direct, mais enfin en tout cas dans ce groupe national loup, il y a eu des échanges. Alors il y a certainement des désaccords aussi, hein, mais il y a eu des échanges qui ont été manifestement fructueux.
Est-ce que vous, localement, pour parler d'ici, est-ce que vous sentez ça, cette espèce de conflit, je vais le dire, hein, entre des écologistes citadins et puis des agriculteurs éleveurs qui sont sur le terrain? Voilà.
J'ai pas assisté à des conflits, à des échanges virulents. Je sais pas s'il faut parler d'écologistes citadins. Les écologistes, il y en a partout, je pense.
Oui,
Hein.
tout à fait.
Et puis pas forcément non plus opposer écologistes et agriculteurs.
Non, mais c'était pour opposer ceux qui sont pour et puis
Oui,
ceux
mais
qui
il y a
sont
certainement
contre.
des accords. Oui.
Et
Oui.
ça va, ça se.
Bah écoutez, ça se traduit pas par des troubles à l'ordre public, hein,
Bon.
que je sache. Donc,
Bon, bah, très bien.
mais en tout cas, tout ce qui peut favoriser le dialogue et la compréhension est le bienvenu.
Guillaume Tirard, sous-préfet de Die, de notre secteur. Je vous remercie pour nous avoir présenté ce plan loup. Évidemment, donc, vous parliez d'une consultation publique là en ce moment qui va donc durer. J'ai déjà oublié la date, mais
Tout le mois de mars.
tout le mois de mars. C'est-à-dire que on peut se rendre en sous-préfecture et demander.
Oui, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet des ministères concernés et puis
Voilà. On rappelle écologie et agriculture.
voilà.
Très bien. Eh bien, un jour, merci et
Mais on
puis
peut
à
venir aussi à la
bientôt.
sous-préfecture.
Oui, je l'espère. Merci à vous en tout cas et puis à bientôt pour autre chose.
Merci beaucoup.
Au
Bonne
revoir.
journée.
L'interview du jour.